Rebelle Hebdo, le magazine des luttes sociales et des alternatives politiques et économiques dans le bassin minier et au-delà.
Bonjour à toutes et à tous et bienvenue dans ce micro Rebelle Hebdo en date du vendredi 1er mai 2020 à 18h. Micro-Rebelle Hebdo, c'est tous les vendredis, à 18h donc, sur micro-rebelle.fr et sur l'appli de la Franf. Par ailleurs, nos amis de Radio PFM 99.9, dans la Rajoie, nous rediffusent le vendredi à 20h, le samedi matin à 7h30 et le dimanche à 14h. Nous les en remercions et nous saluons leurs auditrices et auditeurs. Enfin, un rappel, toutes nos émissions, tous nos reportages sont podcastables et téléchargeables sur micro-rebelle.fr. Pour aujourd'hui, bien entendu, ce micro-rebelle hebdo ne vous proposera évidemment pas d'agenda social et culturel et fera donc une large place aux chroniques et reportages de nos salariés et bénévoles concernant l'actualité, donc autour de la crise sanitaire en cours. La grande actualité de la semaine, ce sont évidemment les annonces d'Édouard Philippe devant l'Assemblée nationale. Selon le Premier ministre, le déconfinement se justifie par le risque d'effondrement économique. C'est bien là où le bât blesse. Le 11 mai est bien une date choisie pour remettre les salariés au travail. Dit autrement, pour le patronat, il faut que l'activité reprenne. Dit encore autrement, ça suffit de perdre des profits. La première annonce, qui soulève bien des inquiétudes, concerne la rentrée scolaire. Et la Voix du Nord peut ainsi titrer « Coronavirus, les Français favorables à la stratégie du gouvernement pour sortir du confinement, mais pas pour l'école ». Passons sur le fait que les Français seraient favorables à la sortie du confinement telle que proposée par Édouard Philippe. Cette affirmation est à mettre en regard des grandes souffrances que vivent beaucoup de personnes dans le cadre de ce confinement, d'autant qu'il est mal organisé. Et revenons donc à l'école. Clairement, chez les parents, l'inquiétude est très forte. Comment cela se passera-t-il dans les classes, les couloirs, les cours de récréation? Comment se dérouleront les repas? Et puis le fait de déclarer que c'est chaque famille qui décidera ce qu'elle doit faire ou non génère une certaine culpabilisation. Je dois envoyer mes enfants à l'école, mais s'il arrive quoi que ce soit, je ne suis pas bien. Du côté des enseignants, la température est également assez fraîche. La Voix du Nord titre ainsi « Retour à l'école, un choix politique qui inquiète ». Et la Voix du Nord donne la parole à Philippe Vincent, secrétaire général du SNPDEN, premier syndicat des chefs d'établissement. La somme de toutes les préconisations du Conseil scientifique, si elles étaient retenues, est infaisable dans l'état actuel de nos capacités, avec du personnel qui ne sera certainement pas présent à 100%. Et la Voix du Nord poursuit par la bouche de Francette Popineau, secrétaire générale du SNU-IPP, dans le primaire. Les avis différents du ministre, du gouvernement, du conseil scientifique montrent un manque de concertation et cela crée un sentiment d'insécurité chez tout le monde. Et puis les enseignantes et enseignants ne peuvent s'empêcher de relever les contradictions derrière les annonces du gouvernement. Par exemple, entre le 11 mai et le 2 juin, les regroupements ne seront autorisés que jusqu'à 10 personnes, sauf dans les salles de classe, où peuvent se trouver 15 élèves, plus l'enseignant ou l'enseignante, plus d'autres adultes, les ATSEM ou les AESH, le tout dans une salle de 50 mètres carrés. De même, la comparaison vaut aussi avec les salles de spectacle ou de cinéma qui restent fermées. Fermer une salle dans laquelle les gens sont assis pendant 2 heures et ouvrir les salles de classe dans lesquelles les élèves bougent toute la journée. Bref, l'explication éducative qui nous est fournie est un peu courte. Il y a eu à ce jour 25 000 morts du Covid en France. C'est certain, la crise économique guette. Mais la solution, ce n'est pas de réouvrir les écoles pour envoyer les salariés au travail et maintenir les profits patronaux. La solution est plutôt à rechercher du côté de la réorganisation de la société en redirigeant les activités économiques vers la satisfaction des besoins de toutes et tous. Et cela passe par le fait de mettre les entreprises sous le contrôle de salariés et des usagers. Au-delà du Covid-19, il y a bien sûr le 1er mai. Pour la première fois depuis 1945, il n'y a pas eu en France de grandes manifestations ce vendredi 1er mai. Par contre, il y a eu diverses autres formes de manifestations, limitées quand elles étaient physiques ou encore virtuelles. ATAC, la CGT, la FSU, Greenpeace, la Confédération Paysanne, les Amis de la Terre, Oxfam et Solidaires ont organisé une soirée intitulée « Un 1er mai pour le jour d'après ». Nos amis de Radio PFM ont organisé une table ronde radiophonique, intersyndicale, etc., etc. Il y a eu de très nombreuses initiatives de cette nature. Je vous propose par exemple d'écouter un extrait du meeting virtuel confiné et combatif de l'UCL, l'Union communiste libertaire.
Bonjour chers amis, chers camarades, travailleuses, travailleurs, ceux qui sont encore confinés, ceux qui s'apprêtent à reprendre le boulot, ceux qui sont en première ligne depuis le début et auxquels on doit tant. Je pense en particulier aux infirmières, aux infirmiers, aux éboueurs, aux caissières du supermarché, aux manutentionnaires, aux chauffeurs de bus et de métro. Vous savez que cette année, on va vivre un 1er mai un peu spécial parce que pour la première fois depuis 1945, il n'y aura pas de défilé.
À cause du virus, l'activité économique a été fortement perturbée, de la même façon que toute l'activité sociale, politique, culturelle, revendicative, etc. Et pourtant, pendant cette période, l'Union communiste libertaire n'est pas restée l'arme au pied. On ne s'est pas tu, et d'ailleurs, comment aurait-on pu se taire quand on voit à quel point toute cette situation nous a donné raison sur un tas de trucs qu'on dit depuis des années. La façon dont le virus est apparu, dont la façon dont le virus s'est répandu, doit énormément au développement du capitalisme, à la façon dont il saccage la planète. On sait que l'apparition du virus est en lien avec la déforestation, avec l'agriculture intensive, avec la perturbation des écosystèmes. La façon dont il a pu se répandre dans la population doit beaucoup à l'opacité bureaucratique du capitalisme chinois. La façon dont il s'est répandu en Europe et aux États-Unis, dans des pays qui ont été incapables de lutter contre lui efficacement, dit beaucoup de choses également sur le capitalisme en Occident, la façon dont il a démantelé les systèmes de santé en cherchant le profit à court terme, la façon dont il s'est privé de lui-même de ses capacités productives, est devenu incapable de produire des choses aussi basiques que des masques, que des kits de test, que des respirateurs artificiels, et puis la façon tout simplement aussi dont la recherche a été laissée à volo depuis le SRAS il y a une quinzaine d'années, et la façon dont la recherche a pris un retard énorme sur ce qu'elle aurait dû faire pour prévenir cette épidémie. Alors tout cela, l'UCL le dénonce. Pour nous, il est évident que le seul remède à tout cela, c'est la socialisation, sous le contrôle des travailleuses et des travailleurs, de l'ensemble du système de santé et de l'industrie pharmaceutique, et que dans ce cadre soient relocalisées les industries qui sont fondamentales, dont on a besoin pour faire exister ce système de santé. Soyons vigilants et soyons exigeants. Exigeons de nos employeurs des conditions de travail et des conditions sanitaires irréprochables. Imposons cela, revendiquons, renforçons les syndicats combatifs qui vont demander cela aussi. Au besoin, utilisons le droit de grève, le droit de retrait pour imposer ces revendications et pour imposer ces conditions sanitaires irréprochables dont nous avons besoin. Nous le savons tous, une grave crise économique et sociale est devant nous. Il ne faut pas qu'on paye les pots cassés. Il ne faut pas que cette crise se traduise par des vagues de licenciements géants, par des fermetures d'entreprises. Il faut que ce soit les capitalistes qui prennent sur leurs réserves. Il faut qu'ils aient des pertes sèches. Il faut, à minima, réclamer le blocage des dividendes des actionnaires. Il faut, à minima, réclamer la socialisation des entreprises qui auront été sauvées avec de l'argent public. L'Union communiste libertaire veut faire entendre une chose. Il y a une grande bataille politique à mener. Une grande bataille. Celle pour la socialisation complète et intégrale du système de santé et de l'industrie pharmaceutique sous le contrôle des travailleuses et des travailleurs. Et que soit relocalisé dans ce cadre l'ensemble des productions nécessaires, vitales, sans lesquelles toute autonomie est illusoire. Alors on va reprendre le travail, mais on va tâcher de ne pas le reprendre en étant battu d'avance. On a été confiné, on va rester combatif.
Nous poursuivons cette rubrique actualité dans ce micro-rebelle hebdo par la chronique confinée d'Aurélie à propos du confinement et des médias.
J'espère que vous allez bien en ce temps de confinement. Donc on se retrouve aujourd'hui pour parler un peu. Donc comme vous savez, nous sommes en confinement depuis un mois et demi environ, et je vous avoue que bon, moi j'ai pas compté les jours, il me semble qu'on est vers une quarantaine. Donc que dire, nous sommes face à une situation assez complexe, et j'ai décidé aujourd'hui de vous parler des médias dans un premier temps. Enfin, que dire des médias? Encore une fois, les mots me manquent. Une vague impression que nous faisons tous les jours face à des informations en continu. Parfois erronées, enfin, que dis-je? Souvent erronées. Plus que jamais aujourd'hui, cela remet en question la façon dont les informations sont traitées dans les médias. Et chaque jour, nous n'en savons pas vraiment plus que la veille. Ou peut-être que c'est juste moi. Le déconfinement arrive. Enfin, peut-on réellement parler d'un déconfinement? Le gouvernement est dépassé, réellement, par les événements. Dans la continuité des gilets jaunes, de la réforme des retraites, des nombreuses grèves qui ont eu lieu cette année et l'année d'avant. Encore une fois, le gouvernement nous montre qu'il n'est pas apte à gérer une crise, peu importe laquelle. Il y a quelques mois, je vous parlais des hôpitaux, des soignants... pardon, qui faisait grève et qui était à bout. La situation n'a pas changé, mais je pense que nous arrivons à un point de non-retour. En effet, plus que jamais aujourd'hui, chacun a compris que le système de santé actuel s'écroule et que nous nous écroulons malheureusement avec lui. Il y a quelques mois aussi, je vous parlais de la cohésion nécessaire entre les soignants, les ouvriers, grosso modo les Français, pour faire changer les choses. Et je ne peux que constater qu'aujourd'hui, le moment est venu. Quoi de plus virulent qu'un virus pour nous faire comprendre que les choses doivent changer, que tout cela doit cesser, que non, ce n'est pas acceptable de se battre pour avoir des masques en papier. Le coronavirus a le juste mérite de nous démontrer que nous avons besoin des soignants, des infirmiers, des docteurs, mais aussi des éboueurs, des caissiers, des pharmaciens et de tant d'autres professions que je ne vais pas citer. Faire de l'argent sur le dos des Français n'a duré qu'un temps. Aujourd'hui, nous le payons tout à chacun amèrement. Tout se serait peut-être passé différemment si nous étions prêts à une telle épidémie. Je n'emploierai pas le terme de pandémie, car malheureusement, au regard de la situation d'autres pays, nous ne pouvons dire cela. Environ, il me semble, 4000 morts en Allemagne, et nous, en France, 20 000 morts, il me semble. La conclusion à tirer de ces informations est sans doute que le gouvernement aurait dû écouter les hôpitaux qui criaient à l'aide depuis des mois et des mois, enfin, que dis-je, plutôt des années. Le manque de moyens, de matériel, le surmenage des soignants, tout cela, mis bout à bout, a fait beaucoup, et fait encore beaucoup aujourd'hui. Puissons-nous sortir plus forts de cette période, plus solidaires? Le confinement fait ressortir parfois le pire chez les êtres humains. C'est vrai, on peut le remarquer, entre ceux qui se font de l'argent sur le dos des malades avec la vente de masques et de gel hydroalcoolique, spécial dédicace à Coralance 2 qui vend les masques à 10 € l'unité. Il y a aussi ceux, je pense que vous avez pu le remarquer, ceux aussi qui sont un peu sur la défensive, prêts à lever la main si une personne les approche de trop près. N'oublions pas qui nous sommes, qui nous voulons être, et surtout, n'oublions pas d'être humains avant tout.
Reportage maintenant concernant les violences conjugales durant le confinement, un reportage d'Elsa.
Parmi les conséquences désastreuses du confinement, nous nous intéressons à présent aux violences conjugales. Quel est l'état des violences conjugales, notamment dans le Pas-de-Calais? Que faire en tant que victime ou témoin? Pauline Benedetto, juriste au CIDFF d'Arras, Centre d'information sur les droits des femmes et des familles, et Aline Idé, conseillère conjugale et familiale au Planning Familial 62, sont là pour nous répondre.
Alors, je m'appelle Pauline Benedetto, je suis juriste et animatrice au CIDFF d'Arras. Alors, de manière générale, les centres d'information sur les droits des femmes et des familles, donc les CIDFF, exercent une mission d'intérêt général confiée par l'État, dont l'objectif est de favoriser l'autonomie sociale, professionnelle et personnelle des femmes, et de promouvoir l'égalité entre les femmes et les hommes. Les CIDFF informent, orientent et accompagnent le public, en priorité les femmes, dans les domaines de l'accès aux droits, de la lutte contre les violences sexistes, du soutien à la parentalité, de l'emploi, de la formation professionnelle et de la création d'entreprises, ou encore même de la sexualité et de la santé. Alors, en tant que juriste au CIDFF d'Arras, nous assurons des permanences juridiques dans le cadre d'accès aux droits gratuits sur plusieurs branches du droit, comme le droit de la famille, le droit du travail, le droit des étrangers. Mais le cœur de notre action reste la lutte contre les violences sexuelles et sexistes et les violences conjugales. C'est pourquoi nous réalisons également de nombreuses interventions à titre préventif en milieu scolaire sur les thèmes de l'égalité filles-garçons, violences sexuelles et sexistes, harcèlement, discrimination. Notre équipe est composée d'une présidente, d'une directrice, de 3 juristes, d'une psychologue clinicienne et d'une secrétaire qui centralise et prend les rendez-vous.
Mes missions au sein du planning familial 62 actuellement sont les missions de conseillère conjugale et familiale et chargée de mission. Donc conseillère conjugale et familiale, c'est au planning 62, ça consiste en l'accueil des personnes qui viennent pendant la permanence pour une demande qui concerne toutes les questions de sexualité au sens large. Donc ça peut être une demande de test de grossesse, une demande de contraception d'urgence, ça peut être une demande d'IVG, une demande concernant des violences sexuelles ou autres, une demande concernant des questions autour de l'orientation sexuelle, autour de l'identité de genre, autour d'un dépistage, des risques éventuellement pris, des questions autour du désir, du plaisir. On essaye d'aborder les questions de sexualité, pas seulement sous l'angle du risque, mais sous l'angle positif, constructif, sous l'angle du plaisir. Voilà, donc c'est ça le métier de conseillère actuellement au planning familial 62. C'est dans l'accueil et aussi dans le fait de rencontrer les gens à l'extérieur.
Plus précisément, pour le volet accompagnement des personnes victimes de violences conjugales, quel est le rôle du CIDFF habituellement ?
En matière de violences conjugales, les CIDFF vont être sollicités pour d'abord écouter, informer, accompagner les femmes victimes de violences sexistes, violences au sein du couple, viol et agressions sexuelles, harcèlement sexuel, mutilation sexuelle ou encore mariage forcé. Les équipes professionnelles des CIDFF accueillent les femmes victimes et les informent sur leurs droits, identifient leurs difficultés, offrent un accompagnement global dans leurs démarches policières, judiciaires, médicales, sociales et professionnelles. Ensuite, il y a une action de sensibilisation et de formation des partenaires travaillant au contact des femmes victimes de violences, comme la police, la gendarmerie, les travailleurs sociaux, les médecins ou encore les magistrats. Et ensuite, il y a une action de prévention. Ça va passer par l'intervention au sein des établissements scolaires, organisation de journées de sensibilisation, par exemple, en direction du grand public et même des entreprises. L'idée, c'est vraiment d'offrir, du moins de faire tout notre possible pour offrir aux femmes victimes un espace leur permettant d'identifier ce qu'elles subissent et de sortir progressivement de l'emprise des violences et ensuite de reconstruire leur vie. Tout cela dans le cadre d'entretiens gratuits et confidentiels.
Avec le confinement, comment vous adaptez-vous ?
En cette période de confinement, l'équipe du CIDFF d'Arras et plus généralement les équipes des CIDFF de France sont en télétravail. Et nous continuons de prendre en charge toutes les demandes par entretien téléphonique et mail, aussi bien pour le volet juridique que pour la prise en charge psychologique par notre psychologue. En cette période exceptionnelle et anxiogène, la prise en charge psychologique est d'une particulière importance. Alors, continuer à assurer ces permanences téléphoniques, c'est permettre aussi de ne pas rompre le contact avec les victimes déjà suivies et de pouvoir communiquer sur notre mise à disposition pour les personnes qui ne nous connaissent pas encore. Donc, entretien téléphonique, mail, mise à disposition de supports, de ressources sur notre site internet et notre page Facebook.
Y a-t-il une accentuation des violences conjugales et intrafamiliales pendant le confinement ? Comment l'expliquez-vous ? Comment en a-t-on connaissance ?
Il y a une augmentation du risque de violence conjugale et il y a un risque d'augmentation. Voilà. C'est-à-dire que les violences conjugales se passent très souvent à la maison. Actuellement, on est en confinement, c'est plus un scoop. On doit justifier ses sorties. La surveillance est encore plus forte, c'est-à-dire qu'elle est plus uniquement faite de la part du conjoint, elle est faite aussi du côté de l'État avec des attestations, des vous avez pas le droit à plus de temps de sortie, pas plus de quelques mètres de chez vous, etc., etc. Bon, donc ça, c'est les mesures d'urgence qui sont prises pour éviter la propagation. Ça fait double effet pour les personnes qui sont victimes à la maison, parce que elles sont davantage exposées. Éventuellement, les victimes qui sont victimes à la maison et qui travaillaient et qui actuellement ne vont plus travailler pour cause de confinement, sont en télétravail ou autre, et ben c'est encore plus de risque d'être victime à la maison, parce qu'on tout simplement hein, c'est mathématique, on passe plus de temps ensemble, donc on est plus exposé à ces violences là. On parle des violences physiques, mais bien sûr évidemment des autres violences, hein, tout type de violences, les violences psychologiques, verbales, la manipulation, les insultes, le chantage, on risque davantage de voir une augmentation des féminicides pendant ce confinement.
Au niveau de nos appels au CIDFF d'Arras, ce qui concerne les femmes victimes se sont plutôt fait rares depuis le début du confinement. Alors il y a une raison tout à fait logique à ça aussi, c'est qu'une femme qui reste enfermée 24 heures sur 24 avec un homme violent n'a quasiment aucun répit ou aucun moment seul pour pouvoir passer un coup de téléphone ou alors se rendre sur internet pour chercher des informations ou de l'aide. Le conjoint violent est quasiment toujours présent au domicile. Les appels que nous avons eus concernent principalement des femmes qui ont pu quitter le domicile, être hébergées en urgence chez une personne de confiance comme un voisin ou de la famille, ou encore des femmes qui souhaitent quitter leur domicile, déposer plainte, mais ne savent pas de quelle manière s'y prendre. Mais en fonction des situations, ce qu'il faut savoir, c'est que les victimes ne sont jamais au même stade. Pour certaines, il s'agit du premier appel. Notre travail consiste alors à l'écouter, à caractériser les formes de violence et rappeler qu'elles sont toutes punies. Puis enfin, d'aborder progressivement les recours qui s'offrent à elles. Pour d'autres femmes, les violences sont déjà bien installées. Beaucoup d'appels concernent des violences psychologiques, du harcèlement moral. La prise de conscience s'est parfois déjà opérée et elles souhaitent obtenir des réponses concrètes et une orientation ciblée dans les démarches. Un point est fait sur toutes les possibilités juridiques, les mécanismes dont peuvent disposer les victimes. Ensuite, un point est fait sur l'hébergement, qu'il soit d'urgence ou l'hébergement sur le long terme. Et en fonction, nous nous mettons en contact avec les partenaires associatifs, les travailleurs sociaux, médecins, brigades de police, les professionnels du droit, pour qu'il y ait un relais et un travail de réseau. Au niveau national, dans le réseau des CIDFF de France, les impacts de la crise du Covid-19 sur les violences subies se sont caractérisés notamment par les difficultés rencontrées par les femmes dans leur démarche, par rapport à l'hébergement ou dépôt de plainte, un rapprochement et une aggravation du cycle des violences, également la peur de parler et les risques accrus de situations de danger, ensuite un renforcement des sentiments d'isolement et d'insécurité, et aussi une méconnaissance des dispositifs mis en place pour les femmes victimes de violences pendant la période du confinement. Est-ce que les permanences sont maintenues? Quand est-ce que se déroulent les nouvelles? Ensuite, les numéros de contact, quels sont-ils? Et enfin, une tension dans l'exercice de la parentalité. On a également observé, ça c'est les chiffres du ministère de l'Intérieur, une augmentation de 30% des violences conjugales sur tout le territoire depuis le début du confinement. Et quant au numéro d'écoute Femmes Violence Info, donc le 3919, 2237 appels ont été pris en charge la semaine dernière. Le numéro est pourtant ouvert sur une plage horaire réduite pendant le confinement, donc du lundi au samedi de 9h à 19h. Je rappelle que depuis le 1er janvier 2020 en France, il y a 27 femmes qui sont mortes, tuées par leur conjoint ou leur ex-conjoint.
Quelles mesures le gouvernement a pris pour faire face à ces violences et aider les victimes pendant le confinement ?
Alors oui, le gouvernement a annoncé une série de mesures pour faire face aux violences conjugales. Tout d'abord, il a étendu les services du numéro 114 aux femmes victimes de violences. Ce numéro, donc le 114, était initialement dédié aux personnes sourdes et malentendantes. Aujourd'hui, les personnes victimes de violences peuvent envoyer aussi un SMS au 114 pour signaler les violences et alerter les services d'urgence. Le 114, donc, par SMS, permet l'envoi par une femme ou un homme victime de violences d'un message dans les endroits avec peu de réseau ou qui s'avère très adapté aux femmes atteintes de surdité. Plus de 300 alertes SMS ont été envoyées au 114 en l'espace d'un mois. Ensuite, on a aussi entendu par le gouvernement les pharmacies qui allaient devenir un lieu de relais en fait pour signaler les violences. Ça veut dire que la victime de violence va pouvoir se rendre dans la pharmacie et par l'utilisation d'un code
comme le code masque 19, signaler les faits de violence au pharmacien ou à la pharmacienne qui va ensuite contacter directement les services de police. Ensuite, le gouvernement a annoncé le financement de 20 000 nuitées d'hôtels gratuites pour que les femmes puissent fuir l'homme violent. Les personnes peuvent donc nous contacter en tant qu'association dans ces démarches pour qu'on les aide dans ces démarches ou même appeler directement le 115 pour une orientation vers des hébergements car c'est le numéro des urgences sociales. Et au niveau du Pas-de-Calais, les policiers ont repris l'intégralité de leurs interventions effectuées depuis janvier afin de contacter les victimes potentielles, donc les victimes potentielles de violences conjugales. Et ça, c'est une première en France. Ils ont donc recensé près de 1900 victimes. Et à ce jour, ils recontactent les victimes et si elles ne peuvent pas répondre ou qu'elles ne répondent pas, ils se rendent au domicile. Les policiers redoublent donc de vigilance et il ne faut surtout pas hésiter à appeler le 17.
Donc en cas de danger, en cas de violence à la maison, si pendant le confinement, enfin ça c'est pendant le confinement et tout le temps en fait, hein, de toute façon, fuir c'est pas un abandon, fuir c'est sauver sa peau, parfois c'est vital, ça peut être vital de fuir des violences. Donc si à un moment donné, pendant le confinement, on se sent très très en danger et on décide de partir, c'est tout à fait une bonne idée, hein. C'est une très bonne solution. On sait à quel point c'est difficile de partir pour une personne qui est victime. Plus on est victime depuis longtemps et plus c'est difficile de prendre la décision. On est en moyenne à 7 allers-retours. Voilà, ça c'est des statistiques nationales, hein, mais pour une personne qui est victime de violence conjugale, on a 7 allers-retours en moyenne avant de partir définitivement du domicile. Voilà. Ça veut dire qu'il y en a qui vont pouvoir prendre la décision, au bout d'une fois ce sera fait, ce sera ok, la décision elle sera prise et il y aura plus jamais de retour à la maison. Et puis ça veut dire qu'il y a des personnes qui vont partir 10 fois, 15 fois, 20 fois, plus, et puis qui vont jamais réussir à prendre fermement la décision de partir. Ça fait partie du processus, ça fait partie du schéma qui malheureusement, ça fait partie du schéma entre guillemets traditionnel concernant les situations de violence conjugale. Voilà, c'est pas de la faute des victimes. Je dirais que c'est une vigilance à avoir davantage du côté des proches, des voisines, des voisins. Actuellement, en tous les cas, ce qu'on peut faire quand on est victime ou témoin, c'est de pas hésiter en cas d'urgence à appeler le 17. Voilà, le 17, c'est le numéro de la police en fait, hein. Pour les enfants, Allô Enfants sans danger, il y a également le 119, qui est à composer si on a besoin de parler de la situation également. Le 3919, lui, est un numéro qui n'est pas un numéro d'urgence, mais un numéro anonyme, gratuit, confidentiel. Ça n'apparaît pas sur les décomptes, les factures de téléphone notamment. Ça c'est important à savoir. Voilà. On peut aussi contacter la pharmacie. On peut aller en pharmacie d'urgence comme ça. Voilà. Si vous avez une pharmacie au coin de votre rue ou dans votre rue, une personne qui est en danger peut se rendre directement en pharmacie. Elle ne sera pas verbalisée. Voilà. Une personne en danger, de toute façon, sans attestation, ne sera pas verbalisée. Ça, c'est très très important à savoir. Donc, la pharmacie, c'est un lieu où on peut aller alerter, que ce soit en tant que victime ou en tant que témoin. Voilà.
Alors oui, on revient sur cette mesure importante. Elle fait partie des mesures importantes lancées par le gouvernement. Donc, les 22 000 officines présentes en France sont officiellement devenues un lieu d'alerte pour les victimes. C'est ce qui se passe également en Espagne, hein, qui a recours à ce genre de pratique déjà depuis un certain moment. D'ailleurs, un homme, pour prouver l'efficacité aussi de cette méthode, hein, c'est qu'un homme a été déféré devant le parquet de Nancy ce lundi, après avoir passé 2 jours en garde à vue. Il est soupçonné d'avoir été violent avec sa compagne, cette compagne qui est âgée de 19 ans et qui s'est rendue à la pharmacie près de chez elle pour donner l'alerte et avertir la police. Alors, la personne victime va pouvoir sortir, donc de manière générale, hein, va pouvoir sortir de chez elle pour aller chercher, par exemple, ça peut être des médicaments, et ensuite elle pourra donner l'alerte aux pharmaciens ou aux pharmaciennes qui vont à leur tour alerter les forces de l'ordre. Donc bien évidemment, les victimes peuvent quitter le domicile pour demander de l'aide depuis l'extérieur, c'est évident. Si le conjoint violent est présent dans l'officine, la personne victime va pouvoir utiliser le code masque 19 devant le pharmacien ou la pharmacienne. Ensuite, en fonction de ce que la personne annonce aux professionnels de la pharmacie, ces derniers vont alerter les forces de l'ordre qui prendront attache avec la victime et évalueront la gravité de la situation. Elles prendront les mesures immédiates assurant sa mise en sécurité ou celle de ses proches. L'idée, c'est vraiment que les professionnels en pharmacie proposent également à la victime d'attendre dans l'officine, dans un local à l'abri de la vue du public. Si la victime n'a pas le temps ou qu'elle ne souhaite pas que la police soit contactée, le professionnel va essayer de remettre au format carte bleue un flyer d'information qui contient tous les numéros et plateformes d'urgence utiles à contacter.
Et puis après, il y a aussi toutes les techniques qu'on propose, qu'on conseille aux personnes, confinement ou pas confinement, aux personnes qui sont victimes. Ça peut être préparer un sac d'évasion, préparer des affaires avec, surtout ça c'est très important, avoir les papiers importants, livret de famille, carte d'identité, passeport, permis de conduire, enfin tout ce qui va être des preuves de votre identité, des papiers d'identité, c'est important de les conserver sur vous. Alors, si vous avez la possibilité de les numériser, c'est encore mieux, les envoyer par mail, vous les envoyez par mail ou les envoyez par mail à quelqu'un, ou les avoir sur une clé USB, si éventuellement ces papiers-là sont conservés par la personne qui est violente. Donc voilà, ça c'est tout un tas de petites techniques, donc avoir des affaires prêtes chez quelqu'un, ou chez soi si on a la possibilité, mais pour pouvoir fuir, des doubles de clés, des choses comme ça, des effets personnels qui sont importantes pour nous quand on choisit de partir. Si la personne a des enfants, et ben c'est bien aussi de pouvoir mettre les enfants dans la confidence du alors, si on considère que les enfants peuvent garder le silence, évidemment, mais si on considère qu'on peut ces enfants peuvent garder les choses pour elles, et bien on peut préparer aussi les enfants à se réfugier ou à fuir, se donner un code de communication qui fera que voilà, à ce code-là, si on a prononcé tel mot, hop, on part tous, on fuit quoi, on reste pas là, reste pas en danger en présence du bourreau. Alors ça c'est code que vous pouvez choisir aussi avec des personnes, des alliés, si la personne en danger au domicile à des alliés plus ou moins proches, et ben c'est très important de pouvoir se convenir d'un code, que ce soit par SMS ou par téléphone ou autre. Je fais sonner ton téléphone deux fois, et ben ça veut dire que je suis en danger, viens me chercher, c'est très important. Ou alors tiens-toi prête ou prêt, enfin voilà. Tous les coups sont permis de toute façon pour sauver sa peau. C'est important de se protéger et de sauver sa peau. Si vous êtes en danger, le confinement ne doit pas vous empêcher de fuir et de vous protéger. Voilà. Votre vie, elle est très 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 importante.
Sur le Pas-de-Calais, le CIDFF a été choisi entre autres associations pour être présent dans des magasins afin d'être plus accessible aux personnes victimes qui souhaiteraient vous rencontrer. Comment cela se passe-t-il ?
Alors oui, Marlène Schiappa, donc, qui est secrétaire à l'égalité femmes-hommes, a dit, je cite, « Comme il est plus difficile de se déplacer, nous faisons en sorte que les dispositifs d'accompagnement aillent aux femmes. » Alors Marlène Schiappa a donc souhaité que des points de contact éphémères dans les centres commerciaux soient ouverts. Un partenariat national donc, a été passé avec Auchan pour installer ces nouveaux lieux d'accueil. Et à ce jour, 8 points ont ouvert dans toute la France. Les premiers retours sont positifs. Les victimes se présentent, appellent et cherchent à être mises à l'abri. Donc les points de contact éphémères montrent leur efficacité. Pour le Pas-de-Calais, pour le moment, le site du centre commercial Auchan a été identifié. Il s'agira pour le CIDFF, donc notre association, d'être présent du lundi au vendredi, donc en relais avec une autre association, au centre commercial Auchan Arras pour accueillir toute personne victime de violences en besoin d'information, d'accompagnement ou d'orientation et ce dispositif commence à partir du lundi 20 avril prochain. Je rappelle également que la Fédération nationale des CIDFF met à disposition sur leur site un modèle d'attestation dérogatoire de déplacement pour les victimes de violences qui devraient quitter leur domicile. Et dans ce modèle, il est indiqué les raisons du déplacement pour motif impérieux en cas de violence. Et il y a également une attestation que nous, les associations, pouvons remplir, prouvant qu'on accompagne les victimes de violences. Et cette attestation, on peut la remettre aussi à la personne, voire à la police.
De manière générale, au-delà de la période de confinement, qu'est-ce qui devrait être fait pour diminuer les violences conjugales ?
Alors cette question appelle à des réponses multiples. Il faut bien évidemment agir sur plusieurs leviers. Le premier, c'est continuer et augmenter la prévention dès le plus jeune âge pour lutter contre l'idéologie sexiste et ses racines qui nourrissent les violences et ne fait que les exacerber finalement et tenter de les légitimer. Nous le faisons au quotidien dans les écoles, les collèges, les lycées. Nous abordons la déconstruction des stéréotypes, les inégalités femmes-hommes, l'évolution des droits. Nous travaillons en collaboration avec notre psychologue sur le développement de l'empathie, de la tolérance et au contraire de ce qui ne doit jamais être toléré, comme toutes les formes de violences physiques, morales, sexuelles et économiques. Le rappel à la loi et l'information sur les droits est également essentiel, et ce, dès l'école primaire. Un autre levier, c'est la formation des professionnels. Il faut rappeler que le Grenelle des violences conjugales a permis de réunir beaucoup de professionnels lors de groupes de travail depuis septembre 2019. Et ces professionnels se sont mobilisés pour renforcer tous les dispositifs judiciaires existants et extrajudiciaires, comme les intervenants sociaux en commissariat, en gendarmerie, les permanences juridiques et psychologiques, l'accueil de jour, les dispositifs comme le téléphone grave danger, les places d'hébergement dédiées. Et aussi, nous avons travaillé sur l'amélioration au quotidien de l'accueil des victimes, notamment dans les commissariats et les gendarmeries. Cela passe aussi par le renforcement des moyens humains et financiers, on ne peut pas s'en passer. Ces budgets supplémentaires de l'État, qui ont été accordés dans le cadre du Grenelle, doivent permettre également aux associations de se renforcer pour pouvoir proposer un accompagnement encore plus solide aux victimes.
Et enfin, pour terminer, avez-vous quelque chose à ajouter ?
Alors oui, j'aimerais rajouter quelques informations et faire un petit récapitulatif de ce qui existe comme moyen. Les premiers gestes, si on est victime ou témoin de violences conjugales, c'est contacter le 3919. Il ne faut pas hésiter, c'est vraiment le numéro le plus spécialisé en la matière qui vous écoutera, vous orientera, vous donnera plein de conseils. Et en cas d'urgence, c'est appeler le 17, qui est vraiment le numéro pour avertir la police. Si la personne ne peut pas, elle peut aussi dialoguer en ligne avec un policier via la plateforme de signalement des violences sexuelles et sexistes qui est sur le site Service Public. Et si ce n'est pas possible, il faut pouvoir, profiter d'un moment où le conjoint prend sa douche, par exemple, pour sortir, aller chercher de l'aide chez les voisins ou se rendre dans une pharmacie et signaler les violences. Donc, bien évidemment, les victimes peuvent quitter le domicile pour demander de l'aide depuis l'extérieur. On ne pourra jamais reprocher à quelqu'un qui a fui un danger pour sa vie, par exemple. Je rappelle également le rôle essentiel des voisins qui sont témoins auditifs pour alerter les secours en cas de cris, de pleurs qu'ils pourraient entendre. Et également, je rappelle que les tribunaux continuent à assurer la gestion des affaires de violences conjugales et intrafamiliales le temps de la durée du confinement. Les audiences continuent à se maintenir pour tout ce qui est demande d'éviction du conjoint violent dans le cadre, par exemple, de l'ordonnance de protection, qui est une mesure qui peut être demandée au juge aux affaires familiales. Donc, il ne faut pas hésiter à contacter une association, donc le CIDF, pour que l'on puisse vous aider à faire ces démarches ou encore vous orienter vers les professionnels du droit pour lancer ces démarches. Et pendant donc le confinement, il y a toujours, donc petit rappel, des numéros, le 3919, gratuit de 9h à 19h, le 17, donc c'est police secours, le 114 par SMS, le 115, c'est le numéro d'urgence sociale afin d'obtenir des solutions d'hébergement d'urgence et des nuitées d'hôtel gratuites, par exemple. Ensuite, n'hésitez pas à télécharger, si vous le pouvez, l'application Appel, A2P-E2LES, en téléchargement gratuit. Cette application permet d'enregistrer un contact d'urgence, d'appuyer sur un bouton rapidement et d'appeler immédiatement ce contact d'urgence, d'avoir des informations, de pouvoir donner sa localisation GPS à un contact prédéfini. Ensuite, vous retrouvez toutes ces informations sur un site qui est très bien construit, c'est le site arrêtonslesviolences.gouv.fr. Il permet de contacter, de signaler les violences de contacter les policiers, de signaler les violences directement, soit en appelant police secours ou via la plateforme de signalement que je vous ai citée juste avant. Et donc, important aussi pour vous, le numéro du CIDFF d'Arras qui est à votre disposition du lundi au vendredi de 9h à 17h, c'est le 03 21 23 27 53 pour tout entretien téléphonique avec les juristes et également avec la psychologue. Et ces entretiens sont confidentiels et gratuits. Je répète, le 03 21 23 27 53.
Web radio indépendante de Bassamini, micro-rebelle, média local alternatif, solidaire quoi.
Comme toujours dans ce micro-rebelle hebdo, nous venons d'écouter du reggae français avec ce titre « T'en fais pas » du groupe Demolisca Music. nous allons terminer ce micro-rebelle hebdo par un extrait d'un reportage en pleine nature. C'était donc avant le confinement, dans le cadre d'une visite ornithologique avec le GON, le groupe ornithologique du Nord-Pas-de-Calais. C'est un reportage de Luc, n'hésitez pas à le retrouver dans son intégralité sur micro-rebelle.fr. Pour ma part, je vous dis à la semaine prochaine, bye bye.
Avec l'arrivée à la présidence de la région Hauts-de-France de Xavier Bertrand, le groupe ornithologique et naturaliste du Nord-Pas-de-Calais a été privé de la subvention régionale qui lui était habituellement attribuée. Une coupe budgétaire qui ampute de 25% les ressources du GON, un changement de cap en matière d'écologie qui tourne en faveur des chasseurs et qui montre une stratégie électoraliste à court terme plutôt qu'une gestion environnementale à long terme. Le GON est pourtant une association de référence dans l'inventaire de la faune de notre région, un travail scientifique qui permet notamment d'alerter sur la raréfaction ou la disparition de certaines espèces d'oiseaux. Le GON a justement publié un ouvrage complet et documenté, l'Atlas des oiseaux nicheurs du Nord et du Pas-de-Calais. Nous avons rencontré Olivier Fontaine pour parler d'oiseaux évidemment, faune, habitat, pression environnementale, subventions et chasse. C'était en mars dernier à la réserve ornithologique de Mont-Bernanchon.
Je suis donc Olivier Fontaine, administrateur du groupe ornithologique et naturaliste, mais avant tout adhérent bénévole. Je suis investi dans l'association depuis plusieurs années. En tant qu'adhérent, je parcours un peu la région à faire des inventaires, à essayer de faire connaître aux gens les oiseaux. Mais pas uniquement, il y a aussi les amphibiens, les reptiles, les mammifères, les insectes, etc. Et je suis également formateur, donc je donne des cours d'ornithologie à Lille régulièrement. Et j'essaie aussi de promouvoir un peu les actions de l'association via les supports de communication. Donc on a un groupe Facebook, on a une page Facebook, et on essaie de faire un peu de vulgarisation scientifique, donc d'attirer l'attention vers l'état des lieux de notre nature, à différentes échelles. C'est une mission qui me plaît. On rencontre des personnes très intéressantes et très intéressées. Alors le GON, il existe depuis plus de 50 ans. On a fêté le cinquantenaire il y a un an et demi. Il existe grâce à des subventions, que ce soit des partenaires publics ou d'autres partenaires. On a la chance d'avoir la possibilité de faire vivre plusieurs salariés qui contribuent justement à cette connaissance scientifique via des inventaires, via des actions. Je pense que c'est très important d'avoir une association référente comme ça au niveau de la région. Ces actions d'inventaire, de surveillance de la faune, ils ont permis de rendre compte de l'état des lieux, de certaines espèces d'oiseaux. Notamment, on s'est rendu compte qu'il y avait un déclin important des oiseaux qui sont dépendants des plaines agricoles, des oiseaux qui sont dépendantes des milieux bocagers. Et on a pu rassembler des centaines de milliers de données et même éditer un ouvrage qu'on appelle l'Atlas des oiseaux nicheurs du Nord-Pas-de-Calais. On a pu constater par exemple l'absence d'une espèce qui est le tarier des prés ou la pigriage grise également dans l'Avesnois. C'était des espèces qui étaient régulières et qui sont totalement éteintes maintenant au niveau régional. C'est une conséquence d'une modification des habitats, une conséquence d'une gestion un peu plus intensive de nos milieux agricoles. Les constats sont assez alarmants sur pas mal d'espèces.
Une alouette des champs. Donc moi j'habite où il y a les grands arbres, les sapins là-bas, pas ceux les loin là-bas mais ceux qui sont là-bas. On va marcher un petit peu, on a des champs à perte de vue, sans aucun abri naturel pour les oiseaux. Et
sans la possibilité donc de nicher, hein, d'être à l'abri des prédateurs et puis de trouver des endroits qui soient propices à la fabrication d'un nid, quoi. Donc si on ajoute à ça les pesticides, les travaux agricoles qui retournent la terre, etc., de manière assez intensive, on est sur des milieux qui sont très peu accueillants pour la vie faune.
Alors dans votre atlas, vous avez fait un état des lieux, et en termes de nombre, cette évolution des habitats, cette évolution des écosystèmes, des habitats naturels, comment ça se chiffre ?
Alors on est sur un état des lieux dans l'Atlas qui reprend des données depuis plus de 20 ans. Et on s'est rendu compte effectivement qu'il y avait des espèces qui étaient assez spécialistes, qui étaient vraiment dépendantes des milieux agricoles, par exemple, comme le bruant jaune, comme l'alouette des champs, qui pâtissaient de cette culture productiviste, hein, cette monoculture, cette volonté de toujours produire plus, au détriment de la nature. Voilà, donc le constat il est clair, hein. La baisse elle est bien effective et elle est visible. Elle est visible parce qu'on fait des comptages réguliers, on a des indices qui nous informent sur le pourcentage, le succès de reproduction, sur le nombre d'oiseaux qui hivernent, sur le nombre de cantons, donc d'oiseaux qui sont sur leur site de reproduction. Il n'y a pas photo.
Est-ce qu'il y a des espèces déjà disparues ? Est-ce qu'il y a des espèces pour lesquelles il y a de fortes inquiétudes ou des suspicions de disparition ? Où est-ce qu'on en est ?
Exactement. On a deux espèces, au moins j'ai ça en tête, qui ont disparu en tant que nicheurs de la région. C'est la pigrièche grise, qui est une espèce des milieux bocagers qu'on retrouvait dans l'Avesnois de manière assez régulière il y a encore 10-15 ans, qui est maintenant rare, qu'on retrouve uniquement pendant l'hiver, hein, un ou deux individus viennent hiverner. Le tarier des prés, c'est un passereau également qui est dépendant des prairies humides, donc toujours un peu ces milieux bocagers, ces milieux où il y a encore un petit peu d'élevage extensif bien sûr, qui favorise la présence d'insectes, hein, via les bouses, via la présence d'animaux, etc. C'est une liaison entre l'élevage extensif et puis la diversité des milieux, et donc une diversité des espèces. Alors que bon, si on reste sur de la monoculture, on a un appauvrissement, hein, clairement, de la communauté d'oiseaux, de la communauté d'insectes, etc.
Alors là, effectivement, on n'entend pas beaucoup d'oiseaux.
Effectivement. Alors ici, on est effectivement sur un site assez, assez peu riche d'un point de vue habitat naturel. Il y a très peu de haies, très peu de bosquets. On a quelques arbres isolés, mais ça ne suffit pas pour abriter des oiseaux, comme je le disais tout à l'heure, hein, le bruant jaune, le tarier pâtre. Même la perdrix grise. Donc ce sont des espèces qui ont besoin d'un couvert végétal. On a plutôt ici le vanneau huppé, hein, qui se plaît à nicher au sol, hein, sur des zones assez dénudées. Mais même si le vanneau huppé trouve de quoi nicher, c'est pas pour ça que sa reproduction va réussir, parce qu'effectivement on a d'un autre côté les labours, le passage des machines qui viennent traiter, donc le succès de reproduction n'est pas garanti. Donc on se dit où est-ce que vont aller les oiseaux ? Voilà, on a finalement on n'a plus de zone refuge, tout simplement. Et c'est un constat qui est assez partagé partout dans la région. Thank you.
Alors ici on est sur un site qu'on appelle la réserve ornithologique de Mont-Bernanchon, qui est un plan d'eau assez bien préservé, avec une ceinture de végétation de sol, une belle roselière. C'est une petite réserve donc, hein, qui n'a pas de statut particulier, mais qui est très attractive pour bon nombre d'oiseaux tout au long de l'année. On a des espèces assez peu communes au niveau régional, hein, comme le grès-bacou noir, la grande aigrette qui vient hiverner sur un dortoir, sur un îlot en fait, avec l'aigrette garzette, le martin pêcheur qui est un habitué du site, la sarcelle d'hiver, le filigule milouin, le filigule morillon sont parmi les canards les plus fréquents également du site. Et puis de temps en temps, on a une espèce encore un peu plus rare, le bioro gris, qui a déjà été vu plusieurs fois. Alors lui, il vient se percher dans les rives, sur les sols, pour chasser les poissons, pêcher les poissons, pardon, à l'affût. Hein. C'est une espèce très discrète. On est aussi sur un axe de passage des mouettes, hein, des hirondelles de rivage, des grands cormorans. Parce qu'il y a du poisson évidemment, donc ça attire les espèces piscivores. C'est le tout début du printemps, donc il commence à avoir pas mal d'oiseaux qui chantent pour signifier qu'ils sont prêts à se reproduire, pour marquer leur territoire. On a entendu tout à l'heure une mésange charbonnière, il y a un pouilleux véloce, la griffe d'reine aussi.
Sur image, une mise au point sur toi,
comme un silence qui s'impose.
Dis-moi pourquoi
on en est arrivé là,
comme une remise en cause, comme un arrêt sur image, une mise au point sur toi, comme une métamorphose.
Oh, une métamorphose.
Dis-moi pourquoi on en est arrivé là. On a besoin de pause quand ça va trop vite, quand y a plus de limites, quand là y en a de trop, quand le quotidien t'agresse au point d'un besoin de remettre les compteurs à zéro. On a besoin de pause, espère respirer.